Place Info.
Bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour.
L'Élysée a trouvé un nom pour remplacer celui de Sylvie Goulard à Bruxelles. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac. Il est proposé par la France pour devenir commissaire au marché intérieur. Est-ce que c'est un bon profil pour se relever, faire oublier le fiasco Sylvie Goulard?
Ben oui, c'est un très bon profil. D'abord, il est impératif et urgent qu'on ait un commissaire européen. Le portefeuille d'ailleurs du commissaire européen français est un portefeuille qui est très important. Donc il fallait une personnalité marquante et qui, si j'ose dire, fasse le poids. Thierry Breton a été ministre de Jacques Chirac, il est PDG d'un très grand groupe. Oui, incontestablement, il a la carrure pour ça et j'espère qu'il sera nommé rapidement.
Justement, il est PDG d'un très grand groupe, Atos, il a dirigé France Télécom. Il n'y a pas de risque de collusion entre ses activités dans le privé et maintenant un rôle dans le public comme commissaire européen?
Ben là, je pense que c'est à lui de savoir tracer la frontière et je pense aussi que au niveau européen et notamment du Parlement européen, ils seront extrêmement attentifs à ce genre de choses, donc je ne suis pas spécialement inquiet là-dessus. En tout cas, il faut qu'on ait un commissaire européen, il faut qu'il soit d'un excellent niveau, c'est le cas de Thierry Breton.
Sylvie Goulard, dont le nom a été rejeté, n'a pas convaincu de sa probité le Parlement européen. La France est sortie affaiblie de cet épisode?
Oui, bien sûr, incontestablement. Après, c'est l'air du temps, si je puis dire. Alors, je voudrais pas aller contre l'air du temps, mais moi je pense que ces condamnations condamnation par la justice ne sont pas une bonne chose. Moi, je dois dire que la jurisprudence dite Balladur, où quand vous êtes ministre, vous êtes obligé de démissionner et que vous ne pouvez, alors que vous n'êtes pas encore condamné, moi, ça me choque un petit peu. Je suis, c'est probablement parce que j'ai été policier longtemps, mais
ancien patron de la police nationale.
Je suis très attaché à la présomption d'innocence. Dans une démocratie, c'est un état de droit. L'état de droit, c'est la présomption d'innocence. Et cette espèce de lynchage qui fait que dès que quelqu'un est soupçonné de quelque chose, il faut tout de suite qu'il s'en aille, qu'il parte, qu'il s'excuse.
Et ça veut dire que Sylvie Goulard aurait dû rester au gouvernement même ?
C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, effectivement. Tant que quelqu'un n'a pas été condamné ou n'a pas un contrôle judiciaire qui l'empêche d'eux, c'est à la justice de décider de ce qui se passe, c'est à personne d'autre. Et je pense que c'est pas une bonne chose.
François de Rugy aussi, alors?
Mais bien sûr, si j'ose dire, encore plus, puisque lui, il n'a même pas fait l'objet d'une procédure judiciaire.
Sylvie Goulard, ancienne ministre des Armées, elle est mise en examen dans l'affaire.
Après, vous avez des choix qui sont des choix
d'emploi fictif au MoDem.
Vous avez des choix qui sont des choix politiques, c'est une chose. Mais la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un état de droit. Voilà, extrêmement important. Et finalement, elle est complètement bafouée en ce qui concerne les politiques, quels qu'ils soient. Moi, je ne porte pas de jugement sur les uns ou sur les autres, mais globalement, je trouve qu'on devrait faire attention à ça.
Renaud Dely.
Frédéric Pechenard, la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de la préfecture de police de Paris a été installée. Elle va être présidée par votre collègue, d'ailleurs, le député LR, Éric Ciotti. Elle commence ses auditions, des auditions qui vont durer 6 mois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et hier, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'exprimait chez nos confrères de BFM TV, a reconnu qu'il y avait effectivement une erreur, puisque le signalement de Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police, n'avait pas été effectué. On l'écoute.
À partir du moment où le signalement n'a pas été effectué, oui, c'est un ratage, oui, il y a une faute. À partir du moment où vous avez un individu qui est dans un service de renseignement qui offre, donne à voir un certain nombre de signes de radicalisation, oui, il faut vérifier quelle est la nature de cette radicalisation.
Il y a un ratage que cette commission d'enquête parlementaire va devoir éclaircir, expliquer.
Oui, bien sûr, c'est plus qu'un ratage, c'est un dysfonctionnement, c'est une succession de dysfonctionnements majeurs qui a abouti à un drame. L'assassinat de 4 policiers dans un lieu où ils pouvaient se sentir légitimement protégés. C'est d'ailleurs une des premières difficultés de cette affaire. Elle me fait penser à l'affaire de Magnanville où 2 policiers avaient été assassinés chez eux devant leur enfant de 3 ans. Quand vous êtes policier, vous savez que vous risquez, vous savez que vous faites un métier qui est dangereux, mais vous pensez que vous risquez quelque chose d'être blessé, voire d'être tué au moment d'une action de police. Et là, ce qui change complètement depuis Magnanville et avec cette attaque, c'est que vous êtes menacé alors même que vous êtes dans un endroit où vous ne faites rien et vous ne devriez pas l'être. Donc c'est de nature à traumatiser durablement les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout banaliser cette affaire. D'abord, il y a 4 morts, donc c'est difficile de banaliser. Et puis on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements.
Comment est-ce que vous les expliquez, vous, ces dysfonctionnements? Alors, en tant qu'ancien patron de la police nationale, quelles sont les pistes que vous avez pour expliquer ces dysfonctionnements?
La vérité, c'est que je ne les explique pas, parce qu'ils me paraissent incompréhensibles. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est tout à fait naturel, il y a une enquête judiciaire, c'est également tout à fait naturel qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, non pas d'ailleurs forcément, en tout cas dans la commission d'enquête parlementaire, pour monter du droit tel ou tel, mais pour faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire. C'est ça qui est le plus important.
Mais la commission ne cherche pas un coupable, elle cherche à améliorer le système pour que des dysfonctionnements soient évités.
Je ne suis pas dans la commission, mais pour moi, cette commission, l'intérêt qu'elle a, c'est d'éclairer les dysfonctionnements et pour qu'on puisse passer à autre chose et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà quelqu'un, l'assassin, bon, qui s'est converti, très bien, c'est une chose. Dès 2015, il a des propos sur l'attentat de Charlie Hebdo qui sont parfaitement inadmissibles.
C'est bien fait, disait-il à ses collègues.
Dès ce moment-là, à cet instant-là, cette personne ne peut pas rester dans un service de police, et alors encore plus dans un service de renseignement. Je vous rappelle qu'il était habilité au secret défense, et que ce service de renseignement est chargé, notamment, de la lutte antiterroriste. Donc là, on a vraiment un conflit total, c'est quelqu'un qui aurait dû être dégagé immédiatement.
Mais depuis cet attentat de la préfecture de police, Frédéric Pechenard, les signalements de policiers suspectés de radicalisation se multiplieraient. On évoque le chiffre de 27 policiers, de 3 demandes de suspension, de certains policiers qui auraient été privés de leurs armes. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? On découvre tout à coup que cette menace, elle est aussi au sein même de la police nationale.
Non, on ne le découvre pas. Je veux dire que il y a très peu, et c'est tant mieux, il y a très peu de radicalisés dans la police. Ils sont suivis, bien sûr, mais évidemment...
27 signalements depuis l'attaque du 3 octobre.
Oui, mais au regard de ce qui s'est passé, on comprend bien que les autorités soient un petit peu fébriles et fassent particulièrement attention. Voilà, donc disons qu'on avait sous-réagi, peut-être maintenant on surréagit un petit peu, le tout c'est de retrouver un bon équilibre.
Peut-être qu'on surréagit, peut-être que certains de ces signalements sont excessifs
En ce moment, je pense pas, parce que compte tenu de ce qui s'est passé, rappelons, 4 policiers assassinés, égorgés dans des conditions quand même extrêmement douloureuses, il me paraît tout à fait normal qu'on fasse particulièrement attention. Et donc la surréaction me paraît logique, mais après il faudra revenir à une espèce d'équilibre. Il s'agit pas non plus de montrer du doigt et de suspendre tous les policiers qui sont musulmans. Il faut faire très attention à tout ça.
Frédéric Pechenard, vice-président des Républicains, ancien patron de la police nationale, invité de France Info ce matin. On va parler de la société de vigilance voulue par Emmanuel Macron dans un instant. D'abord l'info à 8h40, Mélanie Delaunay.
Après le déluge, l'état des lieux, 1 millier de personnes évacuées dans l'Hérault, une femme de 68 ans emportée par la crue, grièvement blessée. Il y a eu 300 litres d'eau par mètre carré, selon le maire de Béziers, qui parle d'une situation apocalyptique dans sa ville. Ce matin, seule la Haute-Corse reste en vigilance orange. Le nom de Thierry Breton, proposé pour devenir commissaire européen au marché intérieur, 2 semaines après le rejet de Sylvie Goulard, l'Élysée l'annonce ce matin. L'ancien ministre de l'économie et actuel patron du groupe Atos va devoir convaincre les eurodéputés. La dépouille de Franco, transférée ce matin dans un cimetière près de Madrid, le dictateur exhumé de son mausolée monumental, décision du gouvernement espagnol pour en finir avec ce lieu d'apologie du franquisme. Et puis 260 000 billets déjà réservés, la rétrospective Léonard de Vinci débute aujourd'hui au Louvre, 162 œuvres à contempler. C'est la plus grande exposition jamais consacrée au maître italien de la Renaissance.
France Info. Et tout est plus clair.
Frédéric Pechenard, invité de France Info ce matin, on parlait de cette société de vigilance que Emmanuel Macron a appelée de ses voeux. Et vous parliez tout à l'heure de ces signes de radicalisation qui sont apparus dès 2015 dans le cas de Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris. Ces signes, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, les a listés en quelque sorte lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Écoutez ce qui sont, selon lui, des signes de radicalisation.
Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Ces signes sont souvent d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe.
Tout cela, est-ce que ça ne risque pas d'aller trop loin? Est-ce que ça ne risque pas de tomber dans une société de délation et de, vous parliez tout à l'heure de la présomption d'innocence, de pointer du doigt des faux coupables?
Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé? C'est ça qui est important, c'est d'essayer de trouver une définition du radicalisé pour savoir
quand il faut intervenir ou pas. Et elle est bonne, celle que donne Christophe Castaner?
Moi, j'en ai une, si vous me permettez, qui me paraît à la fois plus complète et plus simple. Un radicalisé, c'est quelqu'un qui met la loi religieuse, quelle qu'elle soit, au-dessus de de la loi de la République.
Et ça ne se voit pas forcément dans son apparence. Alors, Christophe Castaner, qui est, rappelons-le, lui-même barbu, évoque le port de la barbe comme un signe de radicalisation.
Bah, ça dépend de quelle
Est-ce
barbe.
Est-ce que ça vous semble une définition correcte?
Une fois de plus, je pense que ce qui est important, c'est de regarder à l'aune de la loi. Vous avez une loi de la République et vous avez une loi religieuse. À partir du moment où quelqu'un va mettre la loi religieuse, au-delà, l'exemple le plus simple et le plus évident, c'est le rapport aux femmes. Qu'est-ce que dit la loi de la République ? C'est l'égalité homme-femme. Et vous avez un certain nombre de personnes qui sont radicalisées ou qui vont se radicaliser, qui à un moment donné refusent de recevoir des ordres d'une femme, refusent de serrer la main d'une femme. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Et donc, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un radicalisé et qu'il faut y faire particulièrement attention. Ça, c'est la première chose. Société de vigilance, moi, j'ai une autre expression dont je parle depuis très longtemps, depuis le début des attentats, c'est ce que j'appelle plutôt la résilience. C'est-à-dire, c'est le fait, pour la population française, de comprendre qu'on est en guerre, de comprendre qu'on est attaqué par des gens qui veulent nous détruire, et donc de faire face à ça sans exagérer. Voilà, il ne s'agit pas de surréagir ni de sous-réagir. Et finalement, en France, on fait ça pas très bien. Il y a d'autres pays où on fait ça mieux. On voit bien que quand il y a un attentat, tout le monde se sent extrêmement concerné, on en parle beaucoup à la télévision, etc. Et puis dès qu'il n'y a plus d'attentat, quelques jours après, ben finalement, ça tombe un petit peu dans l'oubli. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut équilibrer ça pour être finalement toujours
sans tomber dans la société de l'angoisse, ça risque...
Sans tomber dans la société de l'angoisse, c'est ça la résilience. Dans le mot résilience, il n'y a pas d'angoisse, si vous voulez.
Mais quand Emmanuel Macron évoque, ce sont ses termes, Frédéric Pechenard, une société de vigilance, donc il appelle l'ensemble des citoyens à participer à cette surveillance, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État de se défausser de ses responsabilités? Est-ce que ce n'est pas d'abord à l'État d'assurer cette surveillance, cette vigilance, et non pas aux citoyens?
Évidemment, c'est à l'État prioritairement d'assurer. Mais, vous savez, moi je suis vice-président de la région Île-de-France, en charge des problèmes de sécurité. On voit bien maintenant qu'il y a une espèce de continuum de sécurité. Il y a encore 20 ou 30 ans, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit, mais non, c'est à l'État, police et gendarmerie, de tout faire. C'est plus le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, chaque citoyen est un peu un policier.
En tout cas, tous les politiques, ce ne sont pas des policiers, mais s'intéressent aux problèmes de sécurité. Les maires, par exemple, qui sont tous, rappelons-le, officiers de police judiciaire, qui peuvent prendre un certain nombre de décisions, eh bien, il y a de plus en plus de police municipale, parce qu'il y a de plus en plus de maires qui souhaitent s'impliquer dans la sécurité. Et à la région, nous n'avons pas de pouvoir de sécurité, mais nous avons un pouvoir d'aide. Nous aidons les maires qui veulent s'équiper en vidéoprotection, qui veulent équiper leur police municipale. Et on voit bien qu'il y a une prise en compte collective de la sécurité. On ne peut plus dire aujourd'hui, maintenant, c'est juste l'État qui s'en occupe. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça va permettre d'augmenter notre niveau, non pas de vigilance, j'aime pas trop le terme, de résilience. Voilà. De résilience face à une agression. Il y a une agression, c'est incontestable. Hein, vous pouvez lire tout ce qu'écrit l'État islamique, Al-Qaïda, et puis tous les groupes affidés qui sont malheureusement extrêmement nombreux et surtout très présents en Afrique, où nous avons beaucoup à la fois d'intérêts et puis de Français qui vivent là-bas. Il faut absolument qu'on fasse très attention à ce qui se passe et qu'on soit prêt à lutter.
Voilà. Frédéric Pechenard, vous êtes vice-président des Républicains. On entendait tout à l'heure Laurent Nunez, le numéro 2 au ministère de l'Intérieur, reconnaître une faute. Votre parti a réclamé déjà la démission de Christophe Castaner. Est-ce que c'est toujours une revendication chez les Républicains, ce départ du ministre de l'Intérieur?
Écoutez, en tout cas, c'est pas une revendication que je porte, moi. Je ne veux pas attaquer les hommes. Je n'aime pas attaquer les hommes. Je veux bien attaquer la politique. Et le problème, c'est pas de changer de ministre de l'Intérieur, c'est que le ministre de l'Intérieur fasse une politique qui soit bonne pour la France.
Il est toujours crédible à vos yeux aujourd'hui, Christophe Castaner?
C'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. C'est le sujet du président de la République. C'est le président de la République qui nomme le ministre de l'Intérieur. Moi, je n'ai rien à dire contre le ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de positions qu'il a. Je critique parfois la politique qu'il peut prendre. De temps en temps, quand il y a des bonnes décisions, je le reconnais. Si vous voyez, je suis pas dans une opposition complète et stérile. Mais en tout cas, moi, je souhaite pas attaquer les hommes. Je trouve que la politique, c'est suffisamment violent comme ça pour pas en rajouter inutilement.
Justement, évoquons la politique, Frédéric Pechenard. Vous avez dirigé la police nationale. Vous avez publié récemment un livre, d'ailleurs, des lettres à un jeune flic. C'est un cri d'amour à la police, en quelque sorte.
Oui.
Et on a vu, au début du mois, 20 000 policiers dans la rue, une marche de la colère de ces policiers contre l'État, contre la politique du gouvernement qui les concerne directement. De quoi elle souffre aujourd'hui? De quoi est malade aujourd'hui la police en France, à vos yeux?
La police, je le dis dans mon livre, vous l'avez très bien dit, cette lettre à un jeune flic, c'est un cri d'amour pour la police, mais c'est aussi un cri d'alerte pour les politiques. La police, finalement, dans une démocratie, c'est le dernier rempart. Et on le voit à plusieurs reprises. Alors, elle souffre de quoi? Elle souffre de plusieurs choses. Je crois que, si on pouvait résumer, un, elle souffre d'un manque de considération. C'est-à-dire que les conditions matérielles dans lesquelles travaille la police sont absolument insupportables. J'ai rencontré pour écrire ce livre beaucoup de jeunes policiers, de jeunes qui voulaient devenir policiers et de jeunes policiers en poste. Et finalement, ils m'ont tous dit la même chose. Vous savez, quand vous travaillez avec des voitures qui démarrent pas, qui sont vieilles, des commissariats qui sont vétustes, qui sont infestés par des rats, dont les murs s'écroulent, comme ça s'est passé il y a pas très longtemps à Fontainebleau, et que finalement il ne se passe rien.
Le gouvernement n'en a pas pris conscience.
Vous avez l'impression que finalement le gouvernement s'en fout et vous méprise. Et ce manque de considération, il est extrêmement important. Et ce que je dis, c'est ça va être encore aggravé. J'ai lu, j'en parle pas dans mon livre qui est sorti le début octobre, mais j'ai regardé le projet de loi de finances pour 2020 et ça va encore aggraver. Quand j'ai regardé le budget, si vous voulez, et la masse salariale monte, mais tout le reste diminue encore. Ce qui fait que c'est l'effet, ce que j'appelle la paupérisation de la police nationale. Vous avez plus de policiers, mais vous avez moins de moyens. Ça veut dire que ça sert à quoi d'avoir 10 policiers de plus sinon pas de voiture, s'ils n'ont pas d'ordinateur, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils ne sont pas formés.
C'est quand même positif, des positions en plus, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Même Nicolas Sarkozy ne l'avait pas fait.
Alors moi, je pense que le débat sur les effectifs, ça montre vraiment la pauvreté du débat intellectuel sur la sécurité.
Mais c'est parce que les effectifs baissaient quand vous dirigez la police nationale.
Alors ils ont augmenté, ils ont baissé.
Nicolas Sarkozy supprimait des postes de policiers.
Après les avoir augmentés, mais je pense que c'est pas vraiment le sujet. À chaque fois que vous parlez d'un homme politique, il vous met en avant ça. Les effectifs, en sautant sur sa chaise. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est quelle mission on veut pour la police nationale, d'abord. Alors, si on veut leur donner beaucoup de missions, il n'y a pas assez de policiers. Si on veut réduire les missions, il y en a peut-être trop. Donc, quelle mission? Et après, en fonction des missions, quels moyens? Et dans les moyens, il y a les effectifs, bien sûr. C'est pas à moi que vous allez dire qu'on n'a pas besoin d'effectifs dans la police. Mais il y a également, en dehors des effectifs, les moyens attribués. Par exemple, la police technique et scientifique est quelque chose qui coûte cher. Il faut investir beaucoup. Le taux d'élucidation des homicides entre 1990 et 2012, je parle de 2012 parce que c'est l'année où j'ai quitté la police, bien augmenté de 20%. Et pourtant, il n'y avait pas plus de monde à la brigade criminelle, il n'y avait pas les techniques d'enquête étaient à peu près les mêmes. La différence, c'était la police technique et scientifique qui a permis une amélioration. Donc on voit bien que le débat ne peut être pas rapporté uniquement au problème d'effectifs. Et d'ailleurs, si on parle d'effectifs, qu'est-ce que c'est qu'un effectif? Pour moi, c'est un policier de plus dans la rue, pas forcément un fonctionnaire de plus embauché. Si on payait les heures supplémentaires, comme je l'explique dans mon livre, vous avez des policiers qui ont fait 20, 30 samedis de suite de manifestation des Gilets jaunes. Et à l'arrivée, ils n'ont pas touché 1 euro. Ils ont touché des jours de vacances. Donc ces jours de vacances, ils les prennent. Si vous payez les heures supplémentaires, d'abord c'est juste. Donc les policiers qui ont travaillé, ils sont payés et ils gagnent plus d'argent. Et comme ils n'ont pas de compensation en jour, ils sont plus présents sur le terrain.
L'État a les moyens de payer?
Non, bien sûr. Bien sûr, après, il y a des choix qui sont des choix politiques à faire. Est-ce que vous savez, à chaque fois que l'État dépense 1000 euros, est-ce que vous savez combien il dépense pour le régalien? C'est-à-dire le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, 60 euros. 6% des dépenses publiques. Il y a des choix à faire. On pourrait envisager peut-être de dépenser 7% ou 8% pour faire en sorte que la sécurité soit mieux assurée dans notre pays et que les policiers se sentent considérés. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est la perte de l'autorité de l'État, qu'évidemment, les policiers ressentent puisqu'ils se retrouvent en première ligne. Mmh. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, mais notamment dans ce qu'on pourrait assez rapidement combler, c'est finalement la difficulté qu'il y a à faire exécuter les peines.
Merci. On s'interrompt juste une petite minute. Frédéric Pechenard, vice-président des Républicains, ancien patron de la police nationale. L'info à 8h51, Mélanie Delaunay.
Des voies ferrées emportées par un torrent d'eau, il n'y aura aucun train entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. 1 millier de personnes ont été évacuées dans l'Hérault à cause des intempéries. La pluie touche désormais la Haute-Corse, seul département qui reste en vigilance orange. La vie chère et l'emploi au cœur des préoccupations à La Réunion et de la visite d'Emmanuel Macron. Il rencontre des demandeurs d'emploi, puis des participants aux représentations citoyennes mises en place après le mouvement des Gilets jaunes. Les syndicats appellent à une grève générale. C'était une promesse des banques et d'après 60 millions de consommateurs, le plafonnement des agios à 25 euros par mois pour les clients en difficulté financière n'est pas respecté pour 8 personnes surendettées sur 10. La mauvaise soirée des clubs français en Ligue des champions de football, défaite de Lyon 2-1 à Lisbonne contre le Benfica. Lille a fait match nul 1 partout face à Valence.
France Info. et tout est plus clair.
Frédéric Pechenard, vice-président des Républicains et l'invité de France Info ce matin. Vous avez un nouveau patron, vous qui avez été à la tête de la police nationale, Christian Jacob, qui a pris la présidence des Républicains. Il aura la lourde tâche de relever une formation qui est un peu moribonde ces derniers temps, avec un échec aux européennes. François Baroin a été l'invité de France Info il y a quelques temps encore. Il parlait, écoutez-le, de cette menace de disparition qui pèse en ce moment sur la droite.
Au fond, la dualité dans laquelle on veut nous enfermer, ou d'une certaine manière dans laquelle on est enfermé depuis 2 ans, est une des dualités qui est mortifère entre, au fond, le camp du pouvoir et le camp frontiste. Parce que accepter cette dualité, c'est accepter un jour l'alternance.
Mortifère, c'est-à-dire qu'il y a une menace de mort qui pèse sur les Républicains, de disparition.
Bien sûr. Ça, il faut être très, très lucide.
Vous êtes d'accord avec François Baroin, Frédéric Pechenard, une menace de mort pèse sur votre parti ?
Ça ne va pas vous étonner, mais oui, je suis d'accord avec François Baroin, bien sûr. Alors, après, le parti est dans un état qui est difficile, avec un espace politique qui est dur à trouver. Nous avons encore 130 000 adhérents, ce qui doit faire de nous le premier parti de France, adhérents payants.
Deux fois moins qu'il y a deux ans. Hein.
Oui, absolument.
C'était 260 000 en 2017.
Quand j'ai quitté, moi j'ai été directeur général du parti, et effectivement, on est deux fois moins qu'il y a deux ans. J'ai quitté en janvier 2017. Il reste encore 130 000 personnes qui payent leurs cotisations. Nous avons encore pas loin de 200 parlementaires.
Mais comment vous l'expliquez, ce recul du nombre d'adhérents, de militants ?
D'abord, bien sûr, ça a été la défaite de 2017. Vous savez, un parti politique, c'est fait pour porter un homme au pouvoir. Voilà, ni plus ni moins. Et à partir du moment où vous avez réussi à porter un homme au pouvoir, derrière, les législatives, les sénatoriales, tout se décline, si vous voulez. Et là, nous avons échoué à porter le candidat qui avait été issu de la primaire de la droite et du centre. Et derrière, nous avons donc perdu largement les législatives. Et depuis, nous avons du mal à nous redresser. Et notamment, nous avons du mal à trouver un espace politique qui pourtant me paraît absolument indispensable. Et là, je rejoins naturellement François Baroin. Finalement, il est important en France qu'il y ait une opposition de droite républicaine, comme d'ailleurs il est important qu'il y ait une opposition de gauche républicaine, parce que sinon, un jour ou l'autre, eh bien, on aura des extrêmes au pouvoir, parce qu'il y aura une alternance, parce que Emmanuel Macron ne restera pas au pouvoir 15 ans, 20 ans, c'est d'ailleurs la Constitution l'interdit, et donc si on n'offre pas aux Français une alternative qui ne soit pas l'extrême droite ou l'extrême gauche, eh bien on aura un jour l'extrême droite ou l'extrême gauche, et ça je ne le souhaite pas.
Et qui peut l'apporter cette alternative ? On sait que ça ne sera pas Christian Jacob qui s'est engagé à ne pas être candidat en 2022. François Baroin, justement, il rejoint le comité stratégique des Républicains. Il remet donc un pied dans l'appareil vraiment du parti. Est-ce que c'est une bonne personnalité pour porter les couleurs de la droite ?
Écoutez, je crois vraiment que c'est quelque chose de très très prématuré. On est à peine lancé dans les municipales. Après, on aura les régionales. On parlera ultérieurement, bien sûr, des présidentielles. Mais incontestablement, pour moi, François Baroin est un homme qui a toutes les qualités pour représenter la droite républicaine à une élection majeure. Après, c'est quelque chose qui lui appartient de décider s'il veut y aller ou pas et quand il le veut.
Il faut qu'il en ait envie également. Beaucoup lui prêtent des intentions, mais peu finalement savent si...
Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal que les gens qui se déclarent candidats à une élection qui se passera dans 3 ans, pour rien vous cacher, je trouve ça un peu ridicule. Voilà, donc déjà on voit bien, moi je suis élu dans le 17e arrondissement de Paris, donc je commence sérieusement à penser aux municipales, je suis derrière mon maire, Geoffroy Boulard, voilà, on a les municipales, une vague après l'autre. Vous savez, quand vous faites du surf et que vous commencez à regarder la vague qui est 3 vagues derrière, c'est généralement à ce moment-là que vous prenez le bouillon.
Quand on regarde aujourd'hui les sondages auprès des sympathisants de droite, il y a un personnage qui est encore extrêmement populaire, qui est nettement devant tous les autres parmi les sympathisants de droite, c'est Nicolas Sarkozy, un retraité de la vie politique.
Ça ne m'étonne pas,
Nicolas. Mais c'est pas ça votre problème, c'est que vous êtes encore justement nostalgique de Nicolas Sarkozy qui ne fait plus de politique.
En ce qui me concerne, c'est très vrai. Je suis très nostalgique de Nicolas Sarkozy qui a été un immense ministre de l'Intérieur, un immense président de la République. Et finalement, on voit aujourd'hui, comme toujours, avec le recul, tout ce qu'il a pu faire pour la France. Ça a été un très grand président de l'Europe où la France comptait énormément. Il a sauvé en 2008 la France d'une crise financière majeure.
Mais il ne reviendra pas en politique.
Je ne souhaite pas parler pour lui. Pour l'instant, on voit bien qu'il ne donne aucun signal de vouloir revenir en politique. En tout cas, pas de politique partisane. Mais voilà, je ne veux pas
vous
en dire plus.
Vous êtes nostalgique de Sarkozy, du non-Sarkozy. Frédéric Pechenard, il y a peut-être un espoir pour vous ce matin. Cécilia Attias et Louis Sarkozy. Son fils était l'invité de nos confrères de France Inter. Et Cécilia Attias a affirmé que Louis Sarkozy était l'homme politique de demain. Ce à quoi Louis Sarkozy a répondu en plaisantant. On verra en 2035. Louis Sarkozy à l'Élysée en 2035, c'est ça votre espoir?
Alors, vous savez, je ne veux pas me prononcer pour savoir qui sera notre candidat en 2022. Je ne suis pas non plus absolument certain d'avoir envie de me prononcer pour 2032. Je serai malheureusement probablement mort d'ici là. Mais après tout, si Louis veut faire une carrière politique, c'est pas moi qui vais l'en empêcher.
Une dynastie Sarkozy, c'est ça l'avenir de la droite?
Je crois pas, non.
Un dernier mot, Frédéric Pechnard. La droite n'a pas encore de candidat officiel pour les municipales à Paris. On sait que c'est une bataille qui va être difficile. Est-ce que Rachida Dati, qui s'est déjà lancé dans la course, ferait une bonne candidate selon vous?
Alors là aussi, je vais être très prudent. Il y a plusieurs candidats.
Là, c'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques mois.
Même dans quelques jours. Mais il va y avoir une commission nationale d'investiture. Voilà, laissons parler la commission nationale d'investiture. Et puis après, une fois qu'on aura un candidat, vous me réinviterez et je répondrai à votre question.
Frédéric Pechnard était donc l'invité de France Info ce matin. Merci beaucoup, vice-président des Républicains.
Merci.
Et je précise que vous publiez donc depuis le début du mois cette lettre à un flic dans une déclaration d'amour à la police d'aujourd'hui. Merci à vous.
Merci.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.